êtes sur Radio Zone 93,8, Remue Ménage, et nous parlons de ces enfants qui cherchent à se faire accepter dans les écoles suisses, genevoises en particulier pour ce qui nous concerne. Vous pouvez toujours nous appeler au 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis la Suisse pour poser des questions à nos invités ou bien témoigner d'une situation que vous connaissez. Bravo à la petite fille qui vient du Kosovo et qui nous a chanté cette jolie chanson. Alors maintenant, évidemment, on va parler des enfants quand même, hein, parce que évidemment, c'est ceux qui sont le plus touchés dans cette histoire qui nous concerne cet après-midi. Alors, on a parlé de la petite école qui est une des solutions, mais avant de parler de cette solution possible, il y a la situation des enfants qui restent chez eux parce qu'ils sont clandestins, qu'il ne faut pas qu'on sache qu'ils soient là, qu'on craint d'éventuelles dénonciations des voisins ou des gens dans les parcs. Alors, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, Florio et Christiane, vous avez dû réunir de nombreux témoignages, dont certains figurent d'ailleurs dans votre livre, nous raconter un petit peu dans quelles conditions vivent ces enfants qu'on n'ose pas laisser aller dehors et à l'école?
Les conditions, c'est donc les conditions de clandestinité qui peuvent prendre différentes formes. Je crois que dans une grande ville comme Genève, pour les enfants jeunes et adolescents, il n'y a pas trop de risque de parcourir les rues de Genève pendant la journée. Donc ils déambulent un peu, ils regardent les vitrines, les magasins. Par contre, pour les petits-enfants, comme il y a quand même un certain sens de l'éducation et de l'instruction dans ce canton, je crois que pour eux, il est extrêmement difficile de faire la même chose que leurs frères ou cousins ou amis adolescents. Et donc, la plupart de ces enfants restent chez eux, vivent chez eux, dans des conditions très, très difficiles. Je crois que ça me semble être les deux grandes catégories d'activités, au fond, des enfants clandestins à Genève.
Mais ces enfants, c'est pas comme si, il y a des adultes qui ont été clandestins longtemps au Chili, ailleurs, enfin bref, on peut en citer nombreux, ils savent pourquoi ils se cachent, ils savent que ça dépend de leur propre activité. C'est clair que les enfants, qu'est-ce que ça veut dire d'être clandestin? Même si j'ai eu l'impression qu'ils avaient été tous très au courant de la situation qu'ils vivaient en parlant avec eux, il n'empêche que pour eux, ça doit être quelque chose d'incroyable de découvrir qu'ils n'ont pas le droit de sortir et que, par exemple.
Mais je pense effectivement, et puis il y en a qui l'ont dit aussi, que leurs parents sont aussi tout le temps en train de leur dire « ne fais pas de bruit, tu sais bien que tu es ici, mais tu n'oses pas y être ». Enfin, constamment, on leur met en face de sa situation. Et c'est vrai que pour les jeunes qui sont en âge d'école obligatoire, ils savent, enfin il y a des consignes quand même assez strictes, ils savent qu'il ne faut pas qu'ils sortent pendant que les autres enfants sont à l'école, parce que des enfants qui se promènent seuls comme ça, ça va une ou deux fois, on peut dire qu'on va chez le médecin ou qu'on a un rendez-vous quelque part, mais si c'est régulièrement qu'on est en train de jouer pendant que les autres sont à l'école, ben, y a des questions qui se posent. Et c'est vrai qu'il y a des voisins qui se posent des questions au sujet d'enfants, ils entendent du bruit dans la maison par exemple, Et puis, ses enfants devraient être à l'école. Dimanche dernier encore, je parlais de ce problème avec une personne qui me disait, ben, maintenant que vous me parlez de ça, eh ben, écoutez, je suis persuadée que dans ma maison, il y en a aussi. Parce que tout d'un coup, elle réalisait qu'elle entendait des bruits qui n'étaient pas des bruits normaux pendant les heures scolaires. Puis ses enfants, on leur apprend aussi à pas trop jouer avec les autres. Parce que les autres gamins vont dire, alors tu vas dans quelle école? T'es chez qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis eux, ils peuvent quand même pas répondre, je vais pas à l'école, je suis clandestin. Donc, au niveau de leur socialisation aussi, même pendant hors des heures scolaires, ou je sais pas, pendant les week-ends, ils sont toujours en train de devoir mentir, de devoir cacher la raison de leur présence. Et pour eux, c'est très, très dur.
Oui, il semblerait d'ailleurs que certains enfants gardent vraiment des traces, des marques de cette période-là pendant très longtemps et ça influence leur façon d'être beaucoup plus longtemps encore.
Oui, je crois qu'à ce sujet, je crois que c'est important de continuer ce que tu dis, Catherine, et ce que disait Christiane tout à l'heure. Je crois que ce problème-là, en fait, on pourrait le résumer, c'est des enfants, quelque part, qui s'empêchent de vivre. Et il est difficile d'imaginer que des enfants s'empêchent de vivre, et d'autant plus difficile d'imaginer que des enfants, qu'un jour ou l'autre, devront vivre en société, ont en fait constitué un petit peu leur personnalité sur ce tableau-là, donc s'empêcher de vivre, s'empêcher d'avoir des émotions, s'empêcher de les dire, s'empêcher de crier, s'empêcher de jouer, s'empêcher d'avoir des relations avec des copains, des fois des bonnes, des fois des mauvaises. Et finalement, c'est un peu cet empêcher de vivre qui sera aussi une situation extrêmement difficile le jour que finalement ils seront scolarisés. Il y aura cette réceptivité par manque de socialisation, par manque de contact, par manque d'avoir profité de la vie quotidienne de tous les jours, comme un enfant de tous les jours, qui sera un handicap très lourd au niveau de la scolarité.
Les quatre points de l'univers, quand il veut le battre, sans hésiter, il passe en guerre, pour un monde idéal, les cheveux, les zodiacs, sont toujours... Oh là là, c'est la chanson des héros. Les cheveux les zodiaques contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur corps les courages des vainqueurs.
Alors là, c'est les garçons qui chantaient. Hein. Ils couraient tout autour, ils pinçaient les fesses des filles, ils venaient crier dans le micro. Puis à un moment donné, les filles ont dit « Ah, puis maintenant, vous avez qu'à chanter, vous aussi. » Alors, ils ont chanté. Et ils ont chanté une chanson, vous l'avez, je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, je ne regarde pas souvent la TV, mais j'ai l'impression que c'est une chanson qui vient de la télévision.
Certainement.
Et d'ailleurs, il semblerait que ce soit beaucoup devant la télévision qu'ils apprennent à parler français. Hein. Ils regardent
absolument
beaucoup. Alors, ceux-là, heureusement, ils ont l'air d'être pleins de vie, ils chantent, ils ont l'air bien heureux. En tout cas, j'ai eu cette impression en allant les voir. Et ceux-là, justement, ils ont la chance de ne pas rester enfermés dans quatre murs. Ils sont à la petite école. Et qu'est-ce que c'est que la petite école? C'est donc, comme Juliana vous le disiez tout à l'heure, une des solutions qui sont offertes à ces enfants qui ne vont pas et qui ne peuvent pas aller dans le système public, mais une autre possibilité qui leur est offerte. Alors, qu'est-ce que la petite école?
Tout d'abord, le passage à la petite école, en règle générale, se passe uniquement pendant une année scolaire, voire au maximum une année et demie, parce que la structure elle n'est pas faite pour que cette prise en charge elle dépasse ce temps, parce qu'on ne voudrait pas être justement une école, mais juste une dénonciation à quelque part à la non-scolarisation de ces enfants. Il y a entre 3 et 4 groupes d'enfants de 4 ans à 12 ans et demi, 13 ans.
Excusez-moi de vous interrompre, Juliana, mais cette petite école, elle a été mise sur pied par qui? Peut-être commençons d'abord par cela.
Alors, il y a longtemps, en fait, il y a déjà longtemps, c'est dans les années 80-81, où un parent qui lui-même avait été saisonnier et qui était chef de chantier, Il avait appris que dans son chantier, il y avait deux parents portugais qui avaient trois enfants et l'autre quatre enfants qui étaient là clandestins à l'époque depuis plusieurs mois et qu'il demandait à l'université ouvrière s'il pouvait scolariser au moins en français ses enfants. Le tout départ, c'est ça. Très vite, la problématique s'est prise par le groupe école du centre de contact par l'émigration et puis vite encore après... le centre social protestant Caritas et enfin différentes institutions... décide à peu près qu'il y a une association qui se met sur pied Et en 84, l'association naît, c'est l'AGRES, l'association genevoise pour la reconnaissance et l'encadrement des enfants sans statut légal. Et le budget est en part, donc il y a eu Terre des Hommes qui nous a vraiment bien lancé au début, avec à peu près le 50% du budget. Et le Conseil communique des églises, il y a des donateurs donc individuels, il y a une petite participation aussi des parents, pour un enfant c'est 100 francs, pour des enfants c'est 140 francs, et ainsi de suite. Donc c'est un budget qui se couvre plutôt bien chaque année par les aides extérieures.
Et puis alors, comment les parents entendent-ils parler de la petite école? Parce que, bien sûr, elle a été aussi clandestine, j'imagine, pendant longtemps. Donc, comment les gens savaient?
Écoutez, d'abord, aussi absurde que ça puisse être, c'est aussi à travers l'école publique que l'école, la petite école est connue. C'est-à-dire, il y a des parents tout de même qui ne connaissant absolument pas le fait que leurs enfants puissent pas aller à l'école parce qu'il faut un permis de séjour, se présentent à l'école. Et il y a plusieurs enseignants, et de plus en plus même, tous les enseignants, je dirais qu'ils disent, bah, écoutez, moi je ne peux pas prendre votre enfant, mais voilà une adresse où ils pourront certainement vous aider. Il y a les institutions donc, sociales, style SMP, protection de la jeunesse, etc. Et puis évidemment, il y a surtout la bouche-oreille de l'immigration et la solidarité entre eux. J'ai l'impression, les parents le disent quand ils viennent donc à l'accueil, et même des fois ils accompagnent eux-mêmes les amis, la parenté, parce qu'ils ne savent pas bien s'exprimer en français, dire « écoute, t'as les enfants là, je suis moi-même passé par la même situation, ou j'y suis encore dans la même situation, viens, il y a un endroit où on peut t'aider ».
Mais est-ce que vous n'avez jamais craint que la police débarque une fois à la petite école ?
Alors, je dirais, personnellement, je dirais que tout au début, oui, on pouvait le craindre, c'est vrai. Parce que c'est en fait une école de clandestins et quelque chose qui n'est pas, bon, je dirais, si légal que ça. Au comité de l'association, donc au début, en 84, quand elle est née, et quand on commençait à être, on intriguait peut-être les premières personnes, que ce soit des enseignants ou des gens donc, autour de nous, voire même déjà les masses médias, on était extrêmement prudents. Et puis, aussi étonnant que ça semble, il n'y avait eu pas de réponse, ni en positive ni en négative d'ailleurs. Et on a passé de plus en plus à travers les masses médias jusqu'à la télévision et tout dernièrement au livre.
Il me semble qu'il y a eu des grands moments où en fait tout le monde était suspendu comme ça, hein, en se disant, bon, est-ce qu'il faut que ça paraisse, est-ce qu'il faut que ça devienne public? Le premier moment, c'était un tel quel.
Quand même, il y a eu une radio, d'abord il y a eu toute une radio internationale encore.
Et puis bon, c'est vrai que jamais les enfants ont été attaqués. Et c'est ça aussi qui a donné peu à peu l'assurance que le problème pouvait sortir un peu plus loin. C'est que toutes ces premières sorties, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux, n'ont pas donné des réactions négatives. Tout d'un coup, on n'a pas entendu une levée de bouclier contre ces enfants. Vraiment, qui pourrait aujourd'hui dire que ces enfants ne doivent pas aller à l'école? Je ne sais pas.
Mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être que ça arrange beaucoup de gens que d'autres gens prennent en charge ces enfants à l'école, non? Alors qu'ils n'allaient pas encore démolir en plus cette solution-là.
Tout à fait.
Alors, quand vous disiez, ils peuvent y rester en principe une année, mais au bout de l'année, ils n'ont pas forcément légalisé leur situation. Alors là, il y a la possibilité d'être inscrit dans une école française.
Dans une école française ou dans une école privée à Genève. En grande partie, c'est vers la France. D'abord parce que c'est nettement meilleur marché. Je tiens quand même à dire à peu près les prix. La France, avec le repas, c'est autour de 200, 210 francs. Suisse, bon. Actuellement, c'est peut-être un peu plus vu le franc, mais c'est en gros ce prix-là. Et Genève, c'est à 500, 600 francs pour le même service. Et il y a des tas en temps malgré tout, parce qu'il faut dire aussi que l'immigration, s'y fait venir les enfants dans cette situation, c'est souvent qu'ils sont obligés, c'est pas seulement comme ça un choix. Et il y a souvent la solution qu'ils avaient trouvée au pays, elle ne correspond plus, ou la grand-mère décède, donc le font venir. La condition du logement est telle qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre, souvent 4, 5, voire 6 personnes dans une pièce, et qu'ils retournent encore au pays si jamais la légalisation est trop loin. Donc moi, j'ai toujours, depuis quelques temps, j'ai une image de ces enfants que j'appelle un peu les enfants à la valise, parce que souvent, les enfants vont et viennent du pays d'origine, viennent à Genève, repartent et reviennent. Donc c'est un peu la situation de, peut-être pas une majorité d'enfants, mais en tout cas d'une bonne partie d'enfants. Et puis la stabilisation.
Parce qu'en fait, Florio, tu le disais tout à l'heure que la légalisation, elle est parfois retardée à cause de cette fameuse histoire des 36 mois du statut saisonnier ils reçoivent leur permis trop tard. Non, il y a parfois des subtilités des patrons qui sont monstrueuses pour faire repartir le compte à zéro, non ?
Oui, exactement. Disons qu'on parle beaucoup de la situation du logement, qui est vrai, c'est un obstacle extrêmement important à l'obtention du permis B et de la légalisation de l'ensemble de la famille. Mais il y a effectivement tous les mécanismes inhérents au statut de saisonnier, et notamment le fait qu'il faut absolument pouvoir comptabiliser ces 4 fois 9 mois consécutivement. Et le travailleur a droit à seulement 7 jours de tolérance. Donc, on a calculé il y a quelques temps, 36 mois, ça fait à peu près, je crois, 1080 jours. Et il a le droit qu'à 7 jours de tolérance pour obtenir quand même son permis. Ça veut dire, par exemple, une entrée tardive due à un problème, ou une sortie anticipée, ou à, disons, une entreprise qui ferait faillite et puis qui ne trouve pas immédiatement, et le travailleur a le droit quand même d'être au chômage, mais pas trop longtemps. Donc, chaque jour, en fait, sur 4 ans, devient très important si on pense qu'on a le droit qu'à 7 jours d'absence de travail. Non, je dirais pas d'absence de travail comme si on est malade ou si on a un accident, mais notamment les mécanismes d'entrée et de sortie. Donc en fait, entre le logement et puis des conditions très strictes de contrôle des jours que la travailleur ou la travailleuse a effectivement travaillé dans l'entreprise, font que effectivement ces 4 ans pourront se prolonger à 2-3 ans. Il ne faut pas oublier, et je termine là-dessus, que si jamais à la troisième saison, en fait, on remplit pas le nombre de mois. Quand on fait une quatrième saison, on arrive par exemple à 32 mois, en fait, on recommence pratiquement à zéro, ce qui donne des fois des situations très très dramatiques de travailleurs saisonniers qui sont là depuis 5, 6, 7, 8, voire 9, 10 ans, toujours avec le statut de saisonnier, parce qu'ils n'ont jamais pu accumuler ces fameux 36 mois de manière consécutive.
Alors nous allons donner maintenant la parole aux enfants, parce qu'ils ont accepté de me raconter quelle était leur situation. Bon, chaque fois, c'était un peu quand même le même schéma. Ils ont été séparés de leurs parents, comme on l'a raconté. Ils ont vécu plus ou moins longtemps chez leurs grands-parents, entre 3 et 10 ans, pour les exemples que j'ai entendus. Ils sont enfin venus à Genève, parce que soit il y avait des promesses de permis, soit des promesses de logement, soit tout simplement, ils avaient envie de se retrouver tous ensemble. Et à ce moment-là, clandestin, ils décident d'aller à la petite école. Ce qui m'a beaucoup frappée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à quel point ils sont conscients de leur situation. Ils arrivent très bien à en parler. Visiblement, ils parlent beaucoup avec leurs parents de leurs problèmes. Et bien sûr, ils en parlent aussi à l'école.
Comment c'est l'école ici, à la petite école? Parce que tu n'as pas pu aller dans l'école où tous les enfants de Genève vont.
Oui, et puis après, on croyait qu'on pouvait aller à l'école en Suisse, et puis on a arrêté ici. Puis après, on est encore revenu parce qu'on ne pouvait pas y aller encore.
Et puis alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait que vous n'avez pas le droit d'aller à l'école comme les enfants, les petits-enfants qui habitent à Genève ou en Suisse? Vous savez pourquoi vous n'avez pas le droit?
Oui.
Tu sais pourquoi vous n'avez pas le droit d'aller à l'école ici?
Oui, parce que on n'a pas le permis B.
Ça veut dire quoi, ça?
Le permis B, ça veut dire qu'on peut être la même chose comme les gens suisses. Mmh.
Puis vous trouvez ça normal que vous n'ayez pas le droit d'aller à l'école comme les enfants suisses?
Je trouve pas normal.
Pourquoi?
Parce qu'on ne va pas à l'école publique, alors c'est pour ça.
Tu trouves que tous les enfants devraient pouvoir aller à l'école, peu importe s'ils sont suisses, albanais, portugais, n'importe
oui.
quoi?
Oui.
Et puis, alors vous êtes venu ici à la petite école. Qu'est-ce que vous aimez le mieux apprendre à la petite école? Comment
c'est
ça se passe?
Lire, écrire et puis apprendre le français.
C'est important pour toi d'avoir appris le français?
Oui. Oui, parce que comme ça, quand je serai grande, je pourrai faire le français. La maîtresse.
Uh-huh. Puis pour toi, ça te dit c'est important de savoir bien parler le français?
Oui, c'est important.
Pourquoi?
Parce qu'ici, je suis grande, je peux apprendre à les autres enfants au Kosovo. C'est pour ça. Je peux être une maîtresse là-bas.
Uh-huh. Parce que tu aimerais bien rentrer un jour au Kosovo?
Oui, j'aime bien. Mais quand vous avez vu, je crois qu'il va faire la guerre. comme ils ont tué des enfants de monsieur beaucoup, ils ont mis dans la les messieurs, ils ont tué, puis ils ont mis...
En prison ?
Oui, en prison. Alors, c'est très facile. Elle n'a même pas pour manger. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas habillé, elle n'a pas pour manger. C'est là-bas, ils travaillent une mois, ils ne prennent même pas 100 francs, 50 comme ça.
Moi, ma mère, elle travaillait la nuit et le jour. En bas au Portugal, j'ai resté 10 ans avec ma grand-mère. Après, quand j'ai venu en Suisse, j'ai laissé ma grand-mère.
Non, vous êtes tous réunis en Suisse. C'est mieux.
Oui.
Tu trouves que c'est mieux?
Oui. Parce qu'ici, là, le lac, il a tas de choses qui ont.
Ici, il y a des rotés.
Il y a des tas de choses mieux qu'au Portugal. J'ai venu en Suisse. Deux fois, ma mère, elle m'a dit que je vais être à l'école. Qu'elle avait des papiers pour aller à l'école.
T'étais contente, ça, là?
Ouais. Ça, là, alors, j'ai bisé, Maëlle.
Et qu'est-ce que tu aimes le mieux maintenant à l'école?
Alors, des tas de choses, le français et la maths.
Tu étais aussi à l'école au Portugal? C'est très différent l'école ici au Portugal?
Ouais, c'est très différent. Les sons, tout ça. C'est tout différent.
Mais tu sais qu'ici tu es dans une école qui n'est pas l'école publique. Est-ce que tu n'aimerais pas aller à l'école publique?
Oui, j'aimerais, mais. J'aimerais aller à l'école publique, mais quand je vais à l'école publique, c'est seulement. L'année prochaine.
Pourquoi seulement l'année prochaine, tu sais?
Parce que mon père, il n'a pas le permis. Moi, il a le permis. L'année prochaine, je vais en France.
Puis ça, tu ne trouves pas un peu injuste que tu ne puisses pas aller à l'école publique?
Oui.
Pourquoi?
Parce que on devrait être à l'école publique. Tous les enfants portugais, tous les pays.
Trop difficile pour nous les saisonniers. On aimerait aller à l'école comme tous les enfants.
Alors comment ça se passe à la petite école, mais cette fois-ci du point de vue des enseignantes? Parce que j'ai rencontré aussi les deux enseignantes qui sont permanentes à la petite école. Il y a aussi des bénévoles qui viennent les aider, mais elles sont principalement deux enseignantes pour s'occuper des enfants. Des enfants qui sont d'âge très différents et qui arrivent surtout à tout moment, puisqu'ils peuvent débarquer à la petite école à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'entrée scolaire à date fixe à la petite école. Et alors, c'est un problème parce que comme les enfants ne parlent pas du tout français, qu'ils arrivent à des moments irréguliers, on croit qu'on est arrivé à un certain stade avec certains, puis tout à coup, on est freiné par l'arrivée d'autres qui ne parlent pas du tout et qu'il faut de nouveau recommencer à zéro avec eux, donc ça freine l'avance des autres. Ils ont parfois été fort bien scolarisés dans leur pays, le problème n'est pas qu'ils n'ont pas été à l'école dans leur pays, mais pour continuer, il faudrait qu'ils puissent parler le français et c'est là que le problème commence.
Ils sont pas tout à fait scolarisés seulement ici chez nous. Il y a des enfants qui ont été très bien scolarisés dans leur pays, mais évidemment, le problème de la langue intervient ici. Donc, il y en a qui arrivent chez nous qui ne parlent pas un mot de français. Alors, pour ce qui est la langue, c'est ici qu'ils commencent à apprendre quelque chose. Mais il y en a qui, par exemple, ont appris très bien le français par la télévision ou justement le temps qu'ils sont restés à la maison cachés toutes seules. C'est là qu'ils font leur premier apprentissage de la langue française. Chose importante pour nous, c'est l'apprentissage de la langue française parce que c'est à travers la compréhension de la langue que l'enfant peut aussi mieux s'adapter à la nouvelle réalité. Puis il y a tout le travail pour les mathématiques. Et puis au fur et à mesure qu'on voit que l'enfant peut ou à la curiosité d'apprendre des choses. On donne aussi des informations vastes. Parce qu'en fait, votre idée, c'est quoi? C'est qu'ils essayent, à partir de la petite école, ensuite, d'être suffisamment bien scolarisés pour rejoindre le système public le jour où ils pourront?
C'est un début, mais il est assez idéaliste. Parce qu'en réalité, nous, on s'occupe principalement de les mettre à leur aise. C'est-à-dire de faire qu'ils arrivent ici, qu'ils trouvent un lieu où ils puissent réellement exister. Et qu'ils se sentent bien dans leur peau, qu'ils commencent à pouvoir se socialiser. Ce qui n'est pas le cas pour des enfants qui sont restés trop longtemps seuls dans une chambre ou dans un appartement caché. Alors là, c'est tout un apprentissage qui va au-delà des branches français, mathématiques, travaux manuels. C'est surtout commencer à pouvoir vivre, à se sentir bien.
On est dans un lieu, vous êtes accueillis par une paroisse, mais ces locaux servent à d'autres gens. Vous devez débarrasser tout le matériel une fois que la matinée est terminée. C'est pas toujours très facile pour vous, j'imagine. Vous avez, vous, des difficultés importantes à surmonter en tant qu'enseignante pour essayer d'assumer le rôle que vous venez de m'expliquer un petit peu?
Le problème principal de notre école, c'est que toute l'année, on reçoit les enfants à n'importe quel moment de l'année. Et c'est ça qui est difficile. Même pour les enfants, c'est difficile à vivre. Quand ils commencent à peine à s'adapter un petit peu, par exemple, les enfants qui sont venus au mois d'avril, ils commençaient à peine à savoir comment on peut faire fonctionner le travail, être un peu indépendant. Et ça commençait à aller bien. Et puis voilà, des nouveaux qui se présentent. Alors tout le travail est freiné. Il faut donner certains éléments aux autres nouveaux qui ne parlent pas un seul mot de français, puis essayer de les intégrer à ce petit groupe. Et puis voilà, tout le travail recommence. Et c'est difficile pour nous et pour les enfants à vivre tout le temps des changements.
Vous avez quoi? Une salle de classe, une salle, disons, pas une salle de classe, mais une salle pour chacun groupe. C'est suffisant, ça?
C'est une petite salle dans laquelle si on est dix au même niveau, disons, dans le même, je ne veux pas dire s'il y a 2 ans, 3 ans de différence, mais un peu le même niveau d'apprentissage, ça va, ils sont serrés, mais ça peut aller. Mais c'est qu'il y a déjà tellement de niveaux différents, on doit faire des sous-groupes et tout, et puis c'est vraiment petit ici.
Puis surtout que quand on commence le tout début de l'apprentissage d'une langue, ça passe plutôt par des actions concrètes que d'être assis autour d'une table, j'imagine.
Oui, c'est surtout le problème de devoir toujours ranger le matériel pour les autres qui vont venir dans le local, que d'avoir justement les petits coins, du matériel toujours sous la main.
Et puis surtout pour les tout petits, qu'il faut par exemple bien de choses pour toucher, pour manipuler. C'est ça qui, des fois, on en a envie d'avoir plein de choses, mais on doit se limiter. Moi, je dois me limiter beaucoup parce que j'ai pas le temps d'abord. Et puis, vraiment, il n'y a pas la place. C'est un peu ça qui... Alors, il faut que je trie chaque fois un peu dans ma tête pour voir tel jour, c'est telle petite activité. L'autre jour, c'est l'autre activité. Et puis, c'est comme ça qu'on essaye petit à petit d'avancer dans notre travail.
J'ai vu tout à l'heure des fiches que vous aviez pour travailler le français et tout ça. Est-ce que vous, il vous arrive de travailler en collaboration avec les enseignantes primaires de l'école publique? C'est des fiches que vous montez, vous, ou bien qu'elles vous transmettent?
Alors, c'est souvent des fiches qu'on retravaille, nous, parce que le matériel que le département nous fournit est un peu trop difficile au début pour nos enfants.
Vous me dites une chose qui me surprend, c'est l'instruction publique qui vous transmet les fiches. Ça veut donc dire qu'on reconnaît complètement votre existence?
On a accès à l'économa, donc il y a un certain nombre de matériel qu'on peut utiliser. Le fait de la reconnaissance, je ne sais pas si on peut dire qu'on est tout à fait reconnu, c'est que c'est une situation très ambiguë, justement parce qu'on a accès à certains droits, et puis le droit fondamental, qui est justement le droit de l'éducation, ne nous est pas reconnu.
Voilà une phrase de conclusion de la part d'une enseignante qui nous permet d'aborder notre dernière partie, qui est de dire, bon, bah, dans quelle situation sommes-nous maintenant? Et vous qui travaillez à essayer d'obtenir enfin ce droit à l'éducation pour les enfants de travailleurs immigrés, même en situation illégale de par le statut de leurs parents, comment cela se passe-t-il? Quels sont vos objectifs maintenant, immédiatement? Qui s'occupe de mener cette bataille qui, je crois, se mène beaucoup au niveau politique?
Ben, je peux commencer.
Chacun se lance le regard.
Disons que j'aimerais bien faire un lien entre ce qui s'est passé juste avant peut-être la sortie du livre et puis ce qui va se passer prochainement. C'est vrai qu'un de nos objectifs principaux ces dernières années, c'était au fond que le problème existe. C'est d'ailleurs pour ça que l'association s'appelle Association pour la reconnaissance et l'encadrement. Donc il y a eu, on pourrait presque dire que contrairement à ce qu'on fait d'habitude, il y a eu d'abord l'action, il y a eu d'abord la petite école, il y a eu d'abord l'encadrement des enfants et à quelque part la réflexion par la suite. Mais une de nos tâches, je disais, c'était que le problème existe et que, surtout que le problème existe dans la société. À ce moment-là, nous avons pu obtenir que toutes sortes d'institutions ou structures d'accueil ou d'encadrement des enfants, des adolescents de Genève s'occupent aussi de ces enfants-là comme ils s'occuperaient normalement de tout autre enfant habitant le canton de Genève. Donc ces enfants peuvent aller au camp de vacances, peuvent aller au centre de loisirs, peuvent aller au jardin, au restaurant scolaire à midi, aux après-midi de loisirs de certains centres de loisirs. Ils peuvent aller notamment quand il y a besoin de soins, que ce soit mentaux, dentaires, physiques, dans les institutions qui sont faites pour ça. Donc il y a eu, notre première intention c'était que, au fond, la société civile prenne en charge ce problème, que ces enfants au fond, aient une existence qu'on pourrait qualifier presque de légale par le fait qu'ils pouvaient vivre une vie plus ou moins courante. Évidemment, il leur manquait peut-être la chose la plus importante, c'est le droit de vivre cette vie à visage ouvert. Alors, le lien qui se fait maintenant est celui, au fond, d'essayer d'obtenir ce droit à l'éducation. Et c'est dans ce sens-là que nous avons écrit ce livre, travaillé avec un collectif très important de personnes. Notre demande principale actuelle, c'est qu'effectivement, on fasse un pas de plus de ce qui se passe maintenant. Donc, à partir des dérogations avec lesquelles ces enfants peuvent aller peut-être plus vite que leur statut leur permettrait, ils peuvent aller quand même une année peut-être plus vite à l'école, mais qu'on se rende compte qu'au fond, le droit à l'éducation est un droit de l'enfant qui doit lui être reconnu à lui en tant que personne et indépendamment du statut de ses parents et même presque du regroupement familial. Donc c'est pour la raison pour laquelle que, à partir de ce grignotage dans la société civile, actuellement il y a plus, disons, une recherche de consensus à deux niveaux. Le premier niveau est le niveau de ceux qui vont accueillir ces enfants, donc les enseignants. Peut-être Christian t'en parlera tout à l'heure. Le deuxième niveau, c'est celui d'essayer qu'il y ait un consensus politique. Je veux dire consensus politique dans le sens qu'on admette ce droit-là indépendamment de l'évolution de la question du statut de saisonnier. Nous avons voulu, et c'est un peu notre thèse principale actuellement, séparer ces deux problèmes. On s'est bien rendu compte toutes ces dernières années qu'il était difficile, voire impossible, on espère un peu sur l'Europe, mais pas trop, d'abolir le statut de saisonnier. Je crois qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas un député sous la coupole fédérale, parce que contrairement à l'éducation, la politique en matière d'immigration est plutôt fédérale. Vous ne trouverez donc personne qui accepte de déposer une motion, ou nous-mêmes, je crois qu'on serait très réticents à relancer une nouvelle initiative Aide solidaire, avec laquelle on s'est fait proprement balayer il y a 7 ou 8 ans. Donc en fait, de ce côté-là, on a l'impression que la situation est un peu bloquée. Je crois que le consensus, c'est plutôt de politique, syndicale, des associations populaires, pour le droit à l'éducation, en se rendant compte au fond qu'une vraie société, une société démocratique, ne peut pas vraiment fonctionner sans la participation de tout le monde. Et participation de tout le monde, ça veut dire aussi que tout le monde est prêt à participer, tout le monde est prêt à s'intégrer dans cette société. Et on croit qu'au fond, le droit à l'éducation pour tous les enfants habitant Genève, mais enfin habitant la Suisse et à la limite dans le monde entier où ça n'existe pas, est une des garanties d'une société de demain. Et en fait, c'est aussi cette conviction-là qui nous fait que nous avons posé le problème publiquement.
Enfin, on avait l'impression que jusqu'à présent, c'est vrai, la société à Genève, genevoise puisqu'on est à Genève, mais la société suisse, c'était pas posé le problème dans ces termes-là. En fait, des enfants n'allaient pas à l'école, des gens le savaient, d'autres ne le savaient pas, mais ça ne remettait pas en cause fondamentalement un droit. Et puis, de prendre ce problème par le biais de ce droit à l'éducation qui est lié aux enfants, fait qu'on peut actuellement certainement avancer davantage dans la résolution du problème. Alors, on parlait des personnes qui sont directement concernées par ce problème. Bon, il y a les enfants, évidemment. Mais il y a les enseignants, par exemple. Alors, on peut très bien imaginer, les enseignants, je crois qu'on ont répondu positivement jusqu'à présent et ils vont continuer à le faire. Ils comprennent très bien que s'ils reçoivent les enfants, même pour eux, personnellement, dans leur travail quotidien, s'ils reçoivent les enfants avant même qu'ils aient été clandestins, quand ils arrivent, ils vont à l'école, eh bien, ils n'ont pas les difficultés de recevoir des enfants qui ont été clandestins 6 mois, 1 année. Et puis au niveau du coût social à notre société, si on veut être simplement très terre-à-terre, comme on sait l'être très souvent en Suisse, eh bien, effectivement, accueillir ces enfants immédiatement lors de leur arrivée, cela veut dire vraiment éviter des problèmes de tous ordres qui émergent même de la clandestinité. Je crois que là, il y a toute cette sensibilité qui est en train de se faire pour que ce consensus soit très large dans cette société. Et le consensus politique, effectivement, va être l'aboutissement, en quelque sorte, mais de ce travail qui aura été fait au niveau de la population de façon très globale. Et je crois qu'on va y arriver prochainement.
Alors, est-ce que l'objectif, c'est de faire maintenant pression sur les gens qui doivent prendre cette décision, à savoir qui, en l'occurrence?
Notre interlocuteur privilégié dans ce domaine-là est quand même le département de l'instruction publique auquel on demande à travers tout ce qui s'est passé ces dernières années, à travers ce livre, à travers un appel qui se signe actuellement à Genève pour le respect du droit à l'éducation, au fond, d'assumer sa responsabilité qui est celle de scolariser tous les enfants habitant le canton de Genève. Je voulais juste rappeler que cet appel qui circule depuis à peu près un mois a déjà recueilli à peu près 1000 à 1500 signatures.
1500 en tout cas, même
et
plus.
Et que
plus,
nous continuerons à le faire signer encore jusqu'à, je pense, la moitié de juin. C'est vrai qu'il est important que les autorités scolaires du canton sentent qu'il y a une majorité de citoyens, une grande partie de citoyens, qui non seulement ont fait un peu le tour de la question du statut de saisonnier, qui en ont compris les côtés inhumains et dramatiques pour les familles, mais cette majorité de citoyens veut faire un pas de plus, et une manière peut-être de commencer à démolir ce statut, c'est de permettre aux familles d'avoir une vie de famille et aux enfants d'avoir une vie d'écolier. Alors, nous serons présents, et là je lance un appel à tous ceux qui seront à coup de main samedi au bas de la bâtie, à venir au stand du centre de contact et de la Grèce pour signer cet appel. Je crois que coup de main, c'est une magnifique entreprise de solidarité pour des situations ailleurs qu'en Suisse. Ben, nous, on sera là-bas avec notre petit stand pour se solidariser avec ceux qui, ici en Suisse, dans notre cité, pleine de banques, n'ont pas un droit fondamental qui est celui d'aller à l'école.
Je crois qu'on peut aussi donner vos coordonnées, Juliana, pour d'éventuels parents qui nous écouteraient et qui auraient besoin de ce point de repère, pour des gens qui seraient bons qu'ils l'enregistrent pour le confier à d'autres si jamais une fois ils se trouvent dans cette situation, au cas où la situation se prolongerait, on aurait encore besoin d'aller à la petite école.
Tout à fait. Donc l'accueil se fait tous les après-midi de 14h à 19h. L'adresse est à 9 rue Simon Durand, 1227 Les Acacias, au deuxième étage. Numéro de téléphone 43 84 80. Ils peuvent téléphoner, ils peuvent passer à l'accueil. Ils seront toujours bien accueillis.
Et nous vous rappelons le livre de Christiane Perrego et Florio Toni, Enfants cherchent école, qui reprend tout ce que nous avons discuté cet après-midi et en plus détaillé, édité chez Zoé. Et merci à vous trois d'avoir bien voulu venir parler avec
merci.
Moi cet après-midi.
Merci.
Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Qui avait une drôle de maison. Sa maison est un carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est un carton. Les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. Celui qui voudra monter, pirouette.
Par le même, j'annonce que dans le cadre de l'église protestante de Montbrillon, le 3 juin, dès 15h, il y a une fête avec donc les gens de la paroisse, avec les gens de la petite école, du centre de contact, pour faire connaître un peu mieux cette problématique, mais en même temps pour s'amuser. Merci.
Radio Zone 93.8, c'était Charlotte Gainsbourg. Nous vous rappelons que nous avons 4 billets, 2 pour vendredi 26 mai. Pour l'opération Coup de main au Bois de la Bâtie, il y aura le 26 Salif Keïta, Manu Dibango, entre autres. Donc 2 billets. Et 2 billets également pour samedi 27 avec le Beau Lac de Bâle, Xalam et Francis Lalanne, sans parler encore des autres groupes. Pour les avoir, tout simple, un numéro de téléphone, le 023 50 40 51 41, Radio Zone.
I never could see your way, you never could see mine. But how am I ever gonna leave that mellow love behind? No, I ain't gonna quit you, baby. I'm gonna stay right with you, baby. Every night I pray that you'll change your way someday.
Et voilà, Romu Ménage, c'est terminé pour aujourd'hui.
Mais oui.
Alors, bah, c'était Romu Ménage. On est tout ébahis là.
De constater que c'est déjà fini. On aurait bien continué encore un moment, mais nos camarades nous pressent de partir. C'est leur tour, c'est à elles de causer. Elles ont très envie de vous voir et de vous raconter leurs histoires. Alors, on leur cède la place.